20h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Debout les morts. On doit bien entendu cet oxymore à l'adjudant Péricard galvanisant sa compagnie encerclée au matin du 8 avril 1915, près du bois brûlé, au cœur de la Meuse. 11 novembre oblige en un siècle, le front s'est tu, les mémoires disparues ont laissé place aux souvenirs et commémorations, voire à l'oubli, l'indifférence. Si la nécropole militaire symbolise toujours la Grande Guerre, la violence des combats, la terre dissimule encore un pan d'histoire, la vie, la mort des soldats. Pour commémorer l'archéologie des temps contemporains, dans le champ de la recherche, notamment l'archéologie des conflits, un invité, Yves Desfossés. Bonsoir.
Bonsoir.
Archéologue de terrain, incontournable référent de l'archéologie durant ces 5 années de commémoration. Yves Desfossés, vous êtes conservateur général du patrimoine à la DRAC Grand Est. C'est au tournant des années 1990 que cette archéologie émerge en France, avec une fouille emblématique, celle de Saint-Rémy-la-Calonne.
En 1991, on retrouve la sépulture multiple dans laquelle repose le corps d'Alain Fournier et de ses compagnons d'infortune lors des combats des Hauts-de-Meuse. Alors l'archéologie de la Grande Guerre est certes née à cette date, mais de manière un peu contrainte et forcée, c'est-à-dire que les archéologues n'étaient pas du tout préparés à faire de l'archéologie de la Grande Guerre, et on leur a surtout demandé d'intervenir sur la tombe d'Alain Fournier pour être sûr de retrouver le corps d'Alain Fournier. Alors qu'en fait, finalement, la problématique archéologique autour de cette tombe, c'était de savoir, par exemple, comment les Allemands avaient géré le phénomène de la mort de masse en ce début de guerre.
Alors, ce qui est intéressant, c'est une fouille, et ce n'est pas encore de l'archéologie. Et puis, on dégage bien sûr la sépulture d'Alain Fournier, mais on trouve aussi celle de ses hommes et celle du commandant de Gramont.
Oui, donc on voit là, il y a, entre guillemets, un geste funéraire de la part des soldats allemands, puisqu'on va retrouver le capitaine de Gramont, le lieutenant Fournier et le sous-lieutenant Humbert, qui sont les premiers à être déposés dans la tombe et dont les corps ont été fouillés. Et puis après, on ramasse les simples pioupiou qui sont restés sur le terrain et on les met dans la tombe. Donc on voit là déjà une interprétation archéologique, finalement, du phénomène de l'inhumation de ces soldats, en dehors de toute considération, comme l'ont pu l'avoir les Allemands à l'époque, du fait qu'un des grands écrivains français était dans cette tombe.
On est en septembre 1914. On jette les soldats ou on les dépose ?
Guerre de mouvement est certainement l'année de la guerre où en 6 mois, les Français vont perdre 300 000 hommes. L'année 1915, on aura que 350 000 tués, mais sur 12 mois de guerre. Donc là, on est vraiment dans un contexte de mort de masse qu'il faut gérer. Mais on va la gérer de manière très différente entre le nord de la France et l'est de la France en fonction des contextes. Donc là, on procède à une inhumation de masse parce qu'il faut bien se débarrasser des corps qui sont restés sur le terrain. Mais de temps en temps, on aura des inhumations, je dirais, plus attentives du corps du combattant.
Face à l'histoire, aux millions de sources, que peut apporter l'archéologie ? D'ailleurs, une archéologie de la Grande Guerre a-t-elle du sens ?
Alors, l'archéologie de la Grande Guerre, de toute façon, elle n'a pas pour but de révolutionner l'histoire de la Grande Guerre, qui s'alimente par des documents bibliographiques, photographiques, par millions. L'archéologie de la Grande Guerre, elle a surtout pour but d'apporter quelques éléments dans des domaines où, finalement, cette documentation bibliographique est défaillante. Alors, notamment, on a depuis 1991 développé des problématiques qui se résument en deux grands domaines de recherche, c'est la vie quotidienne et la mort quotidienne, qui sont certainement les choses qui sont les moins documentées par les sources bibliographiques standards ou académiques.
Une sorte de censure de l'époque même ?
Alors je pense que c'est pas une censure au sens de l'autorité va empêcher les soldats de décrire ce qui se passe, je veux dire c'est quasiment une autocensure. Alors notamment autour de la mort, là malheureusement je crains qu'on n'aura jamais vraiment de réponse, est-ce que les soldats se sont autocensurés parce que finalement la mort était devenue tellement quotidienne et commune qu'on n'en parlait plus, ou devant ce phénomène extrêmement, enfin psychologiquement dur à vivre, il y a eu une espèce de repli sur soi, un peu une forme d'autisme sur cette chose-là. Et puis la vie quotidienne, en fait, dans ses détails les plus anodins, en fait, on l'a peu décrite comme on la décrit peu actuellement. Donc, l'archéologue va essayer de compléter cette histoire de la Grande Guerre par des petites touches, hein, c'est du pointillisme. Sur chaque chantier, finalement, on va voir quelques informations qui vont ressortir et qui vont illustrer souvent des situations qui sont très locales, c'est-à-dire la vérité qu'on aura en Champagne sera pas ce qu'on va trouver dans le Nord-Pas-de-Calais, ou inversement.
Yves Desfossés, donc vous travaillez en parallèle des historiens de l'histoire.
Alors c'est vrai qu'on travaille un peu en parallèle et on regrette un peu les communications entre les deux disciplines ont un peu de mal à se faire. Alors je pense qu'on n'a pas aussi forcément le même langage d'échange. L'archéologue, il est les pieds dans le terrain. L'historien, il est peut-être un peu plus distancié des sources bibliographiques ou iconographiques. Donc on a souvent un peu de mal à échanger, mais c'est vrai que chacun doit apporter, c'est-à-dire que pour une recherche sur, par exemple, une fosse avec des combattants allemands en 1914 aux alentours de Reims, on va bien sûr céder de l'abondante iconographie et bibliographie dont on dispose, qui d'autant plus maintenant est numérisée, je pense aux journaux de marche et opérations sur le site Mémoire des Hommes. Donc on va utiliser ce fonds d'archives qui va servir à alimenter le discours archéologique et vice-versa.
Vous fouillez des champs de bataille, des zones d'affrontement?
Alors, on évite, je dirais, de fouiller les champs de bataille. Alors, pour deux raisons. Une raison de sécurité, c'est qu'il reste encore beaucoup de munitions actives. Et puis, une autre raison qui est très, très prosaïque aux yeux de l'archéologue, c'est que finalement, l'information sur le champ de bataille, elle a été perturbée. Elle est passée dans le maelstrom, des bombardements, des choses comme ça. Donc, on va peut-être plutôt aller dans des coins un peu plus tranquilles, de zones de repos, où finalement, l'information archéologique, elle est préservée. Dans un milieu plus bucolique que la première ligne de front. Et donc là, on va avoir des informations qui seront vraiment exploitables, à défaut d'avoir des informations qui sont un peu hachées menues par les événements.
Yves Desfossés, c'est une archéologie qui n'est pas sans danger. Un archéologue aurait été gazé. Et puis d'ailleurs, les archéologues suivent des formations pour reconnaître les pièges, les mines, etc. Ouais.
Effectivement, il faut savoir que sur à peu près un peu plus d'un milliard d'obus tirés pendant la Grande Guerre, 25% n'ont pas explosé et donc sont encore sur le champ de bataille souvent. Donc forcément, l'archéologue effectuant des terrassements à l'appel mécanique maintenant depuis de très nombreuses années, on va remonter des munitions actives. Alors, les agriculteurs ont souvent fait le travail pour nous pendant 100 ans. C'est vrai qu'en surface, on retrouve assez peu de munitions, mais le risque, il est pas anodin, il est pas minime, mais je dirais qu'il est pas plus élevé que l'archéologue qui prend sa voiture le matin pour aller au travail. Il y a toujours un risque, on ne peut pas aller à son encontre. Par contre, on peut essayer de le minimiser, et c'est pour ça justement qu'on n'intervient pas sur les zones vraiment en première ligne, parce qu'on sait que souvent les obus ont été balancés dans les tranchées quand elles ont été rebouchées. Donc plus on va rentrer dans les structures de la Grande Guerre, plus on va augmenter la probabilité de tomber sur un stock de munitions encore actives.
9 avril 1917, les troupes anglaises se lancent à l'assaut du plateau d'Arras. Vous avez d'ailleurs retrouvé quelque chose de tout à fait extraordinaire, les traces de cette bataille.
Là, on était sur une opération de 300 hectares en première ligne de front. C'est vraiment la première opération d'archéologie préventive qui a pris en compte à la fois le risque 14-18 et les problématiques 14-18. Donc on savait que la zone avait été attaquée par certaines unités anglaises, et on a retrouvé très régulièrement des corps de ces soldats qui étaient restés sur le terrain et qu'on a pu identifier en fonction de leurs unités d'appartenance. Et puis, à l'occasion d'une simple tranchée de diagnostic, on a décapé l'angle ouest d'une fosse qui s'est révélé contenir les corps de 20 soldats du Commonwealth. C'était en 2001, donc à l'avancement du décapage, on a vu que la fosse continuait et qu'il y avait de plus en plus de corps. Et à l'issue de la fouille, donc il y avait 20 corps qui nous ont raconté une histoire extrêmement particulière. Et c'est là où il est important que les archéologues interviennent, parce que entre, je dirais, la simple mention de 20 soldats britanniques retrouvés à Arras, ce qui n'est pas très étonnant, finalement, l'histoire a pu aller beaucoup plus loin.
Les soldats sont en ligne, font face au front et sont tous coude à coude, voilà, dans une sorte d'énorme danse macabre.
Voilà, on s'est aperçu que finalement tous les corps étaient au coude à coude. Alors plus ou moins, parce que les
corps étaient... Une mise en scène incroyable.
Voilà, une mise en scène, une espèce effectivement de danse macabre. On a décidé de les lier dans la mort, comme ils avaient été liés dans la vie, puisqu'ils appartenaient à la même unité. On a déjà, a priori là, un geste assez fort de camaraderie, parce qu'on fait l'effort, le 9 avril 1917, le fond de l'air est plus que frais devant Arras. Donc on fait l'effort de donner une tombe, une véritable tombe à ces soldats, on les lie dans la mort par les coudes, et certains corps qui n'étaient plus représentés sur le terrain que par quelques fragments du corps sont replacés dans la tombe comme s'ils étaient complets. C'est-à-dire que le pied gauche et le bout de jambe droite sont à l'emplacement du pied gauche et de la jambe droite de l'individu.
C'est-à-dire qu'il faut l'intégrer. On est quasiment dans le mythe osirien, là. On ne peut pas, voilà. Il faut à tout prix enterrer quelque chose de l'individu.
Voilà. On va au-delà du cénotaphe, c'est-à-dire que l'individu n'est plus représenté physiquement que par quelques fragments sanguinolents et on les replace dans la tombe comme s'il était complet. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'assez étonnant. Donc cet élément aussi prouvait qu'on avait fait un réel effort pour aller rechercher ces quelques restes sur le terrain. Et troisième élément, on avait ce qu'on appelle des caractères discrets au niveau des squelettes de trois individus qui, normalement, prouvent à la fois une malnutrition et un lien de parenté. Et ces trois individus sont les uns à côté des autres dans la tombe. Donc les personnes qui ont procédé à l'inhumation savaient qu'ils étaient liés familialement et ont décidé de les mettre les uns à côté des autres dans cette tombe. On est sur quelque chose aussi là de très fort, donc qui renforce le fait que ces soldats se connaissaient et les vivants ont souhaité donner à leurs camarades morts une sépulture, je dirais, digne des liens d'amitié qui les liaient quelques jours auparavant.
Qu'est-ce qui s'est passé pour cet individu qui s'est fait, on va dire, volatiliser ?
Malheureusement, sa trajectoire a rencontré celle d'un obus, donc enfin l'effet de l'artillerie, c'est extrêmement dévastateur, ne serait-ce que l'effet de souffle peut tuer un individu, et puis là, le corps a été haché par des éclats d'obus. On est vraiment sur une bouillie sanguinolente, hein, il faut appeler les choses comme elles sont, mais on est allé rechercher ces quelques restes et on les a redisposés dans la tombe.
Tous appartenaient au 10e Lincolnshire Regiment, c'est bien ça ?
Voilà, ils sont tous du 10e bataillon du Lincolnshire Regiment, et ce bataillon a une particularité, il s'est donné un surnom qui sont les Grimsby Chums. Alors Grimsby, c'est un petit port du nord-est de l'Angleterre, et les Chums, c'est littéralement les potes de Grimsby. Donc on a là encore, je dirais, le bataillon porte comme emblème, finalement, cette amitié qui surpasse la dureté des combats.
Combien de soldats de toutes les nations restent à découvrir dans les labours de la plaine de France ?
Alors, on estime sur l'ensemble du front, hein, donc on va inclure le front belge, donc sur 700 kilomètres de ligne de front, on estime à peu près à 20% des corps qui n'ont pas été récupérés après les combats, qui n'étaient pas récupérables, ou dont la tombe avait la signalisation, comme celle des Grimsby Chums, avait disparu, ce qui représente quand même 650 000 corps sur 700 kilomètres de front. Donc très régulièrement, forcément, les archéologues qui vont diagnostiquer des centaines d'hectares des fois en ligne de front vont forcément découvrir des corps de combattants qui sont restés sur le terrain, dans des états très divers. Il y a le gars qui a été complètement pulvérisé, qui n'est plus représenté que par quelques os, ou des tombes vraiment constituées.
À qui appartiennent les corps ?
Alors, les corps, la législation française est très claire sur ce sujet. Les corps de combattants, à partir de la Grande Guerre, sont récupérés par les services des sépultures de la nation du combattant. Le corps du combattant français peut éventuellement être revendiqué par sa famille pour être rapatrié dans sa commune d'origine, mais globalement, maintenant, les corps des soldats français vont finir dans une nécropole nationale, et tous les combattants, quelle que soit leur nationalité, ont droit à une inhumation perpétuelle dans une nécropole nationale. Pour les Britanniques, la famille ne peut pas récupérer le corps.
C'est le Commonwealth Royal Grave Commission qui s'occupe donc de ça pour tout le Commonwealth ?
Voilà, pour l'ensemble des troupes du Commonwealth, effectivement, dans ce qui s'appelait avant l'Imperial War Grave Commission et qui est devenu Commonwealth War Grave Commission, gère cet aspect des découvertes extrêmement chatouilleux sur le statut des individus qui peuvent être retrouvés.
Alors comment font les archéologues s'ils n'ont pas le droit au départ de fouiller ce genre de choses ?
Alors, l'archéologue au départ a quand même le droit, on fouille mais on n'exhume pas par exemple. Voilà. Donc, il faut de toute façon que les corps soient traités avec le respect qui leur est dû. Je dirais que là aussi, très rapidement, les services des sépultures se sont aperçus que les archéologues avaient justement la bonne méthode, comme on l'avait fait pour Alain Fournier, pour fouiller dans les meilleures conditions les sépultures de combattants. Donc, en fait, c'est institué un espèce de statu quo où les archéologues interviennent au niveau de la fouille, voire gardent le corps quelques semaines pour étudier au niveau anthropologique, la stature, l'âge du soldat, éventuellement les traumas que le squelette présente. Et après, de toute façon, le corps ne va pas rester comme pour une sépulture médiévale dans un dépôt archéologique, mais va être rendu au service des sépultures compétentes.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Yves Desfossés, ce genre de découverte ne laisse pas indifférent. Pour le chercheur, cela implique forcément d'avoir une plus forte distanciation face à son objet d'étude.
Alors, je pense que la distanciation, elle est difficile à mettre en place. Il est vrai que on a peu de chance quand on fouille un Gaulois ou un Romain de mettre un nom sur cet individu, voire une photo et une famille.
Et pourtant, c'est un individu.
Et pourtant, c'est un individu.
Il n'a pas perdu son identité.
Voilà. Donc, je pense que l'archéologue a aussi l'habitude de cette distance avec le mort. Pour la Grande Guerre, c'est un peu plus compliqué. Je dirais qu'il y a une relation qui s'établit entre le fouilleur et le fouillé. Je dirais que la Grande Guerre, c'est à la fois la guerre de tous les Français et la guerre de chaque famille. Donc, inconsciemment, enfin, moi, je parle pour mon expérience, il y a une espèce de lien qui se crée parce que on a tous en mémoire les photos jaunies de jeunes hommes qui ne sont jamais revenus à la maison ou les photos de très vieux messieurs qui sont décédés dans les années 70, qui étaient les combattants de cette période. Donc il y a forcément, je dirais, un lien qui se crée entre le fouilleur et le fouillé. Alors il faut aussi savoir raison garder, et l'archéologue est aussi un peu là, c'est-à-dire que lui a un geste archéologique pour, je dirais, exhumer la personne dans les meilleures des conditions.
Une technique.
Mais, voilà, il y a une technique, il y a aussi des approches scientifiques, puisqu'on l'a vu notamment sur les liens de camaraderie, les pratiques de l'inhumation multiple et la gestion des crises de présence de corps. Après, si on met un nom sur un individu, je dirais que là, c'est un travail de devoir de mémoire et patrimonial, mais qui n'est pas de l'exclusivité de l'archéologue. C'est-à-dire que là, on va faire rentrer, par exemple, des associations patrimoniales qui vont essayer de retrouver les familles. On va les faire rentrer dans le jeu. Et là-dessus, je dirais que l'archéologue, je pense qu'il est nécessaire qu'il garde une certaine distance par rapport à ces découvertes. Sinon, la qualité du travail archéologique devrait s'en sentir.
Yves Desfossés, prenons un exemple. Dans un trou d'obus, vous avez retrouvé Archibald Macmillan, par exemple.
Voilà, donc ça c'est toujours en 2001, à côté de la sépulture des Grismichems, on a un soldat britannique qui a été enterré rapidement. Lui n'a pas eu cette attention dans son inhumation, il a été mis au fond d'un trou d'obus. Mais par contre, ce soldat-là, à l'inverse de beaucoup de soldats britanniques qui ont des plaques d'identité qui se dégradent très rapidement dans le sol, il avait pris une petite précaution, il s'était fait faire une imitation de plaque d'identité française beaucoup plus résistante. Donc on a pu mettre un nom, les 20 Grismichems sont tous des inconnus, mais lui s'appelait Archibald Macmillan et il appartenait à un bataillon des Royal Scots. Et donc on a fait l'étude, on a rendu le corps à la War Grave Commission et quelques mois plus tard, l'inhumation a été faite réglementairement dans un cimetière à proximité de l'endroit où il avait été retrouvé. Sauf que là, on est en 2002 et que le jour où on a été invité à l'inhumation, on s'y est rendu bien évidemment, et on nous a présenté Archibald Macmillan, mais le fils, donc qui était né fin 1916, son père est tué le 9 avril 1917. Et là, je peux vous assurer que les trois archéologues que nous étions sur le terrain ont regardé un peu le bout de nos chaussures, parce que c'est vraiment une confrontation qu'on ne vivrait plus maintenant. On est 20 ans plus tard, les descendants directs ne sont plus de ce monde. Mais est-ce qu'on avait bien fait de ressortir à ce vieux monsieur qui s'était passé finalement de son père toute sa vie? Est-ce que de lui ressortir son père à quelques mois ou quelques années de sa disparition à lui, quel effet ça pouvait avoir sur un individu? Là, il était content, mais je ne suis pas certain que ça puisse se reproduire tout le temps.
Bon, voilà. Vous lui avez remis quelques objets?
Alors, les objets avaient été rendus déjà à la War Grave Commission et quelques objets personnels ont été remis à Archibald.
Aucune fouille spécifiquement orientée sur la Grande Guerre n'a, semble-t-il, encore eu lieu, n'a encore été réalisée. On fouille de la guerre de 14 et du Gaulois et de la guerre de 14 et du Romain.
Alors, c'est vrai que longtemps, on a été assez opportuniste, c'est-à-dire qu'on a fait des opérations d'archéologie de la Grande Guerre en parallèle à des recherches sur des villas gallo-romaines, des établissements ruraux gaulois, dans des secteurs de zones de front où, bien évidemment, les soldats n'avaient pas évité les occupations plus anciennes. Par contre, depuis quelques années, je dirais travaille depuis le début des années 2010, même 2011 très précisément, on a maintenant des prescriptions d'archéologie préventive spécifiquement sur des problématiques Grande Guerre, donc notamment en 2011 la fouille du tunnel du Kinzigstollen, donc un abri profond allemand qui a été bombardé à l'artillerie lourde par les Français et dans lequel une vingtaine de soldats ont été piégés.
Ça, c'est une très belle découverte.
Alors, c'est ce qu'on a appelé à l'époque un Pompéi de la Grande Guerre. C'est effectivement quelque chose de tout à fait, enfin, exceptionnel. Non, sur l'ensemble du front, il doit y avoir des dizaines de Kinzigstollen. Mais là, on a eu l'opportunité de pouvoir accéder à cet abri souterrain qui était à 7 mètres de profondeur et en fait qui était idéalement placé dans le fond de forme d'une déviation routière. Donc, les archéologues alsaciens ont pu accéder au tunnel, l'ouvrir et trouver les 20 corps piégés comme effectivement les habitants de Pompéi, non pas par l'éruption d'un volcan, mais par l'arrivée d'obus d'artillerie lourde français.
Il n'y a pas que les Français qui fouillent donc en France de la guerre de 14-18. On a par exemple les Australiens à Fromelle.
Voilà, alors les Français ont surtout l'avantage d'avoir les sites sur leur territoire. Nos collègues britanniques sont un peu frustrés dans la mesure où leur territoire national n'a pas cette richesse archéologique sur une période qui les intéresse tout particulièrement. Et donc depuis quelques années, même voire une vingtaine d'années, en fait, on a régulièrement des équipes anglo-saxonnes qui interviennent sur des problématiques précises sur le terrain. Et puis en 2008, le gouvernement australien a décidé de rechercher les corps de 500 soldats australiens qui avaient disparu pendant la bataille de Fromelles en juillet 1916. Et donc on a fait procéder aux premières recherches par des équipes anglaises à la localisation des fosses qui contenaient les corps. Et en 2008, les corps ont été fouillés. Il n'était que 250. Donc là, on est aussi sur un peu une opération, je dirais, à la Fournier, c'est-à-dire que l'objectif initial est de retrouver des corps et de mettre un nom sur ces corps, alors que finalement, l'objectif de l'archéologue, lui, est de savoir comment les Allemands ont géré la mort de masse, puisqu'ils ont repris leurs tranchées avec des centaines de corps d'Australiens et il fallait se débarrasser de ces corps. Donc comment on a géré ce problème?
En France, personne ne connaît le sergent York. Aux États-Unis, il est très connu. Et d'ailleurs, des Américains seraient venus dans ses pas le rechercher.
La Grande Guerre en France, c'est la Grande Guerre de tous les Français et de chaque famille, mais c'est aussi la Grande Guerre de beaucoup d'Européens et d'Américains. Et chaque nation a développé un peu ses héros, et notamment les Américains, autour du sergent York, qui, en septembre 1918, a capturé des centaines de soldats allemands dans la forêt d'Argonne. Alors pour les Américains, c'est quelque chose d'assez important.
C'est le héros américain.
C'est vraiment le héros américain. On fera même un film sur le sergent York en 1941 pour relancer les Américains dans la Seconde Guerre mondiale.
Avec un acteur célèbre.
Voilà, Gary Cooper. Ce qui n'est pas le meilleur film de Gary Cooper, mais ça montre l'importance pour les Américains de cet épisode, et tous les Américains quasiment connaissent le sergent York, contrairement à tous les Français. Et on s'aperçoit que là aussi, cette histoire peut prendre une ampleur assez étonnante, puisque là, on avait deux équipes américaines concurrentes qui se chamaillaient sur un passage dans la forêt du sergent York, qui se passait à globalement 20 mètres de distance. Donc pour un Français qui a un peu plus de distance par rapport à l'événement, c'était un peu étonnant comme pratique.
Aujourd'hui, les archéologues français s'intéressent beaucoup aux cimetières provisoires. De quoi s'agit-il?
Voilà, donc ça c'est une des dernières, c'est comme toute discipline archéologique, l'archéologie de la Grande Guerre, elle se nourrit de ses découvertes, et puis elle va améliorer ses problématiques de recherche. Et une des problématiques qui est en train d'émerger ces derniers temps, c'est peut-être l'effet au revoir là-haut, hein, du prix Goncourt et du film qui s'en est suivi, c'est toutes les problématiques de déplacement de nécropoles à la fin de la guerre, vers des nécropoles de regroupement. Et il se trouve que depuis 2015, on a eu l'occasion de fouiller, finalement, qu'est-ce qui restait de ces cimetières temporaires et comment les soldats avaient été exhumés.
Donc ça, c'est après la guerre.
Ouais, oui, c'est plutôt les années 20-25, 1920-1925.
Qu'est-ce que l'on trouve dedans?
Alors, on trouve l'emplacement des sépultures, qui sont souvent assez bien organisées. Et puis, on trouve surtout tout ce que les exhumateurs ont pu laisser, ce qui permet de renseigner je dirais, les pratiques d'exhumation à l'époque. Est-ce qu'on exhume le soldat allemand ennemi de la même manière que le soldat français? On peut avoir ce genre de questionnement. Alors, l'archéologue ne sera pas catégorique dans ses réponses. On rentrera pas dans les problématiques des gens qui ont gagné des profits énormes en exhumant à la va-vite les corps. Mais on va pouvoir montrer par des exemples précis que finalement, les exhumations, souvent le corps n'est pas totalement exhumé, il peut rester certaines parties anatomiques, plus ou moins importantes suivant les tombes, et puis sur 500 tombes à Bouche-sur-Suippes fouillées, on avait quand même 10 soldats qui avaient été oubliés.
Qu'en est-il de l'hôpital de campagne? Là aussi, un objet de recherche.
Alors là, on a un objet de recherche plutôt sur la vie quotidienne des soldats, plutôt à l'arrière-front. Et on peut donc notamment monter des recherches. Les gens ont un peu oublié que certains départements de France, comme la Haute-Marne, ont, pendant la guerre, accueilli plus de combattants américains que de Haut-Marnais. Donc notamment, on a ces grands hôpitaux de campagne qui peuvent être abordés en fouille, en nous donnant aussi des renseignements sur cette vie hospitalière qui n'est pas toujours bien décrite.
La guerre de 14, c'est aussi l'artisanat de tranchée, l'art de tranchée, que vous retrouvez beaucoup?
Alors, on retrouve de l'artisanat de tranchée. Alors là encore, la problématique archéologique va supplanter la problématique de l'objet. Tout le monde a en mémoire chez lui les douilles d'obus sur une cheminée qui était soigneusement astiquée par la grand-mère. Voilà, mais ces objets n'avaient plus d'histoire. Qui les avait ramenés? Qui les avait faits? L'archéologue, lui, à l'inverse, sur le terrain, va trouver un atelier d'artisanat de tranchée, donc va pouvoir dire comment on les a faits, quand on les a faits, et qui les a faits. Donc on redonne une histoire à des objets qui l'ont souvent bien perdu. Donc c'est ça la démarche de l'archéologue, à l'inverse, finalement, de l'historien de l'art qui va se concentrer peut-être sur les productions de douilles d'obus décorées, on va apporter d'autres éléments.
Et ça pose bien sûr la question du camp d'internement, parce que souvent cet art de tranchée était fait dans ces conditions-là.
Alors, on a aussi effectivement nombreux camps d'internement. Alors là, la problématique, je dirais, elle va plutôt passer sur la Seconde Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, on a des camps d'internement dans le Sud notamment. Nos collègues allemands ont fouillé il y a une dizaine d'années un camp d'internement de soldats français en Allemagne, comme quoi ils s'intéressent aussi à ces problématiques. Mais cette problématique, elle va être surtout prégnante pour l'archéologie de la Seconde Guerre mondiale, puisque pour donner un ordre d'idée, il y a plus de 2 millions de combattants allemands qui sont internés en France, donc on a des camps énormes, notamment je pense à Reims où on a fouillé un camp il y a pas si longtemps que ça, où on a là 10 000 soldats prisonniers allemands, hongrois, italiens, qui aident finalement la logistique de l'armée américaine sur leur base de Reims.
Qu'en est-il de l'archéologie hors de France, par exemple le front d'Orient, le film, bien sûr, Capitaine Conan? Qu'en est-il en Belgique, en Allemagne, dans les cimes des Alpes?
Finalement, cette archéologie, elle est possible dans tous les pays qui ont connu un front de la Grande Guerre, voire même des pays qui n'en ont pas connu, comme l'Angleterre, qui commence à fouiller ses camps d'entraînement pour la Grande Guerre. Alors pour ce qui est du front d'Orient, c'est vrai que là, on est dans des terrains un peu spécifiques, un peu montagneux. Donc il y a quelques, je dirais, prospections, mais qui sont plus ce qu'on appelle, nos collègues anglo-saxons appelleraient la battlefield archéologie. Donc plus une approche du terrain,
du
champ de bataille, et un espèce d'inventaire de qu'est-ce qui peut rester sur un champ de bataille. Et donc, à l'inverse, par exemple, nos collègues belges pratiquent une archéologie de la Grande Guerre très proche de la nôtre, puisqu'ils sont dans des conditions d'engagement à peu près identiques. Les Italiens, là aussi, c'est souvent un front en montagne, donc on va pouvoir trouver des choses d'accès plus difficile, mais très bien conservées. Je pense notamment à un bel abri en hauteur autrichien qui était complètement congelé et rempli de glace et dans lesquels tous les objets étaient intacts et on les a retrouvés sur place.
Ce patrimoine de la Grande Guerre est bien sûr périssable et en plus, c'est un patrimoine convoité.
Alors, c'est un patrimoine malheureusement très convoité par les collectionneurs et puis c'est un patrimoine qui est souvent enfoui, difficile d'accès. La protection est un peu compliquée. Je pense notamment à toutes les creutes du chemin des Dames où on a un très beau patrimoine. Donc, il convient de se pencher maintenant sur la préservation parce qu'il ne va pas se protéger tout seul. Et puis des fois, on a en patrimoine enfoui, en 1998, on a retrouvé un tank à Fléquières, quasiment complet. Donc là aussi, enfin, il y a tout un patrimoine de la Grande Guerre qui est un petit patrimoine du quotidien des soldats, mais qui convient maintenant de protéger 100 ans après les faits.
Yves Desfossés, merci beaucoup. Je rappelle donc que vous avez écrit l'archéologie de la Grande Guerre, d'ailleurs avec Alain Jacques et Gilles Prilot, publié aux éditions Ouest France INRAP. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Frédéric Changenet, et avec bien sûr la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site INRAP.fr. La semaine prochaine, nous évoquons une exceptionnelle découverte, un char gaulois sur les rives de la mer Noire, au cœur du royaume Thrace.